Salut Marc, salut les smarts, salut peuple le catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la type catch-up, Monday Night Raw, Friday Night SmackDown, les pay-per-view et toutes les autres friandises que le catch peut nous offrir chaque semaine. Tout ça pour vous proposer des reviews qui bougent au rythme des cordes à linge et autres powerbombs. Allez, on n'est pas là pour enfiler des perles, vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure. Que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner, pour analyser, décortiquer, encenser ou mettre en PLS le Monday Night Raw du 7 décembre 2020, rien de tel qu'un ancien solide sur les appuis, en l'occurrence mon tag team partner of the day, le bon papy. Comment vas-tu papy?
Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, bah, ça va, oui, je suis prêt à attaquer ce Raw par la face nord, je vais aller jusqu'au bout.
Jusqu'au bout de ce 1437e Monday Night Raw, t'es chaud? Alors chaud. On y va. Alors évidemment, bah, ça a commencé comme a commencé NXT, comme a commencé SmackDown la semaine dernière, avec les 10 coups de cloche en honneur de Pat Patterson. On est revenu longuement dans les deux dernières, même les trois dernières reviews, puisqu'on peut compter Wargames qui va sortir incessamment. Et je pense qu'on a à peu près fait tout le tour sur Pat Patterson. Rest in peace, Pat. Tu nous manqueras quoi qu'il en soit. Et le show va démarrer tout de suite avec la Vipère. La Vipère est sur le ring. La Vipère parle du film. La Vipère a besoin d'un masque pour cacher sa noirceur. Enfin, considère que le Fiend a besoin d'un masque pour cacher sa noirceur. Lui, il n'a pas besoin de ça pour montrer ouvertement. Hein. On est habitué de toute façon au Randy Orton Dark. Et voilà, et au moment opportun, Orton montrera que c'est lui le plus gros salaud que la Terre ait produit. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais la citer en entier. Bray Wyatt, qui est en mode Firefly Funhouse, hein, va apparaître sur le Titantron. Et il va tout de suite nous indiquer que Orton a été tellement méchant avec Alexa Bliss qu'elle n'est même pas là ce soir. Alors vraiment, vraiment pas sympa. Hein, vraiment pas sympa, Randy Orton. Et après une petite séance de jeu, hein, de jeu télévisuel avec toutes ces marionnettes, Orton, lui, il dit qu'il n'y a pas de problème. Il sait qu'il va affronter le Fiend à TLC. Mais il ne veut pas attendre. Lui, il ne veut pas attendre le Randy. Ce n'est pas un garçon patient. Et lui, ce qu'il aimerait, c'est affronter Bray Wyatt dès ce soir. Et que va faire Bray Wyatt, mes amis? Eh bien, il va accepter. Alors, papy, cet opener, la feud Randy Orton et le Fiend, je crois, est parti sur de gros, gros rails. Rendez-vous est pris à TLC. Qu'est-ce que tu as pensé de cette ouverture du Monday Night Raw?
C'est déjà bien qu'il programme des matchs de catch entre deux. Ça, au moins, ça évite d'avoir un Bray Wyatt qui tient des semaines et des semaines et des semaines à papoter sans jamais catcher. Au moins, là, on a du coup de la vision sur le catch, vu qu'on en aura en fin de show et on en aura au pay-per-view. C'est une bonne nouvelle. Sur le jeu, je savourais qu'il y avait une espèce de musique tout du long et du coup, je comprenais absolument rien à ce qu'il disait. Donc, il a peut-être fait plein de références que j'ai pas saisies du tout, mais bon, c'est du Wyatt classique, quoi. Il détourne les codes de plein de trucs, et puis il fait des blagues, et puis voilà. Mais bon, l'info essentielle pour moi, c'est qu'ils vont se fighter. Et l'autre info un peu plus triste, et puis qui malheureusement fait que je pense qu'ils n'aient pas trop le choix de coacher, c'est l'absence de d'Alexa Bliss, quoi.
Tu trouves pas que Bray Wyatt, il a pris de la masse?
Ah ben ça, je trouve depuis le premier confinement, je trouve qu'il s'est un peu empâté, Wyatt. Je trouve qu'il gonfle.
Là, dans son espèce de pull, j'allais dire jacquard, mais c'est pas le cas. Mais je me suis vraiment fait la réflexion là en visionnant le show. Je me suis dit, tiens, mais c'est pas possible. Mais Bray Wyatt, il a encore pris du poids là ou quoi là?
Ben, moi, j'ai l'impression que ça m'a surtout marqué après le premier confinement. Donc là, ça marque un peu moins. Enfin, ça marquera plus à la fin quand on le reverra en pull. Mais effectivement, au show qui gonfle l'ami Bray.
Il a un gros gabarit de pilier droit au rugby, quoi, de numéro 3 au rugby, quoi. Je trouve qu'il dépareillerait pas dans une équipe du top 14, notre ami Bray Wyatt. Allez, de toute façon, on va les retrouver un peu plus tard, puisque comme annoncé par Randy Orton lui-même, hein, de toute façon, ils vont s'affronter plus tard dans le show. Mais en l'occurrence, ce sera non pas un match The Fiend versus Randy Orton, mais bien un match Bray Wyatt versus Randy Orton. Allez, on enchaîne avec les femmes. Alors, on va avoir un match Asuka versus Shayna Baszler en single match. On est déjà sûr et on est chaud sur l'info que Asuka et Lana vont affronter Shayna Baszler et Nia Jax à TLC pour le titre de championne par équipe. J'aurais tendance à dire que ne serait-ce pas un aveu de faiblesse de la part de la WWE du fait que on ne trouve pas d'adversaire suffisamment à la hauteur d'Asuka et que du coup on est obligé de la balancer dans la title picture de la division féminine par équipe. Il va y avoir ringside bien évidemment Lana et Nia Jax. On va avoir un match assez court, mais pas tant que ça, puisqu'on va avoir un match de 8 minutes 30 tout de même. Baszler va être pas mal en contrôle quand même sur le ring. Ça m'a rappelé quelques combats en fait entre les deux à NXT. De l'autre côté, évidemment ringside, ça pouvait pas bien se passer puisque Jax va attaquer Lana. Elle va l'envoyer contre les escaliers, mais celle-là, elle va quand même se défendre et elle va réussir à envoyer la Samoane contre la table des commentateurs avec un Hurricane Rana. Oui, vous avez bien entendu, peuple de catch-up, je viens de dire que Lana a passé un Hurricane Rana. Alors ça va attirer l'attention de Belzer hein, parce qu'elle est tellement étonnée de voir un truc pareil, elle en revient pas, qu'elle squatte les cordes pendant je sais pas combien de temps, c'était long d'ailleurs, mais voilà, elle parle plus ou moins à Nia Jax, plus ou moins à Lana. Et qu'est-ce qui va se passer, les amis, après ces 8 minutes 30 et ce scotchage de Baszler face aux cordes? Eh ben, on peut pas y louper. On va avoir Asuka qui va nous passer un bon vieux roll-up des familles pour la victoire des Faces. Lana est folle de joie. Un peu plus tard, d'ailleurs, on les retrouvera. J'avance tout de suite. Je fais un peu avance rapide.
Ouais, fais tout.
Voilà, il va y avoir un segment avec Lana et Asuka où Asuka est un peu en mode coach personnel de Lana puisqu'on a annoncé que la semaine prochaine, bien évidemment, pour le Go Home Show, Lana va affronter Nia Jax dans un single match. Alors évidemment, Lana, elle est en totale panique, mais Asuka, elle est là pour la rassurer, elle est là pour la motiver, la Nana, et elle lui dit « Mais non, mais t'as pas à avoir peur, il faut que t'y ailles, t'es forte, Lana !» Et Lana va reprendre un peu la confiance. Va se dire ouais, je vais le faire, j'en suis capable et tout. Et au moment où elle va tourner la tête, eh bien, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la Nia Jax qui va être en face d'elle et qui va la regarder d'un œil très, très, très méchant. Alors, mon papy, la division féminine de Raw. Rien que ta respiration, là, déjà. Rien que ta respiration nous amène déjà à se dire oui.
Non, mais. En fait, on tourne un peu en rond avec cette histoire-là. Je suis plus sûr. Nia Jax, Shayna Baszler et Asuka se sont croisés à NXT ? Mais j'ai eu un doute.
Non, Shayna Baszler et Asuka, je parlais.
Oui, c'est ça, mais elles se sont croisées.
Ah oui.
Bah quand ? Parce que.
Il me semble. Non, elles se sont pas croisées. Il n'y avait pas eu un match.
Je ne parle pas.
Ah ouais.
Elle a croisé Yushirai. Kairi Sane, Shayna Baszler, mais est-ce qu'elle a croisé Asuka? J'étais plus sûr,
elle
en fait.
Pas croisé Asuka du temps où justement elles étaient championnes par équipe avec Kairi Sane. Il me semblait d'un NXT. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va faire le fact-checking.
Voilà,
le peuple de catch-up. Et comme ça, on aura la réponse. Merci à vous, peuple de catch-up.
Exactement. Parce que moi, je vais donner mon idée pour moi, mais juste pour finir ce truc-là, il me semble que c'est Ember Moon qui fait le trait d'union entre Asuka et Shayna Baszler. Que c'est Ember qui n'arrive pas à prendre la ceinture à Asuka, ensuite Ember prend la ceinture sur un match où il n'y a pas Asuka, et ensuite Shayna Baszler pique la ceinture dans un de ses premiers matchs contre Ember Moon. Mais c'est flou, donc le fact-checker va nous sauver, je le pense.
Moi, il me semblait juste en fait qu'elle s'était pas croisée dans le cadre du titre NXT, hein, mais il me semblait qu'elle s'était croisée dans le cadre de Kairi Sane et Asuka qui étaient à l'époque championne par équipe et qui étaient venus faire un tour à NXT à une ou deux occasions. Donc il me semblait que c'était à ce moment-là. Mais je peux me tromper, c'est largement possible.
Messieurs les auditeurs, corrigez-nous.
Voilà, vous êtes là pour ça quand même. Il faut un peu vous bosser aussi quand même.
Voilà, on ne va pas tout faire non plus. Qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, pour l'histoire, cette histoire-là, moi, de toute façon, ça fait un bout de temps que je mise sur le fait que Asuka et Lana aillent se mettre en opposition avec Shayna Baszler et Nia Jax pour la ceinture tag team. Ça me semble l'histoire qui devait avoir lieu. En revanche, je trouve qu'ils sont vachement longs pour la mettre en place. On est déjà arrivé à TLC avec cette histoire-là. J'imagine que ça veut dire que ça va continuer avec Lana après TLC parce que je pense pas que ça fera une fin nette de cette histoire-là, donc c'est-à-dire qu'on en a peut-être jusqu'au Rumble. Donc voilà, donc je trouve qu'ils rallongent vachement la sauce. Et bon, après, ils n'ont peut-être pas de solution derrière. Charlotte n'est toujours pas de retour. Donc peut-être que c'est vraiment pour la garder Charlotte au chaud et occuper l'espace avec ces filles-là en attendant, quoi.
Ouais, moi je sais pas ce que tu en penses, mais par exemple, moi je trouve que Shayna Baszler est vachement en dessous au niveau du in-ring que ce qu'elle était à NXT. C'est bizarre, hein.
Est-ce bah là, que... En plus, elle est censée paraître plus faible vu qu'elle est celle qui prend les 3 tombes dans 3 semaines. Donc,
en plus,
ça renforce pas sa crédibilité à Shayna Baszler.
Mais c'est surprenant ça, hein. Il y a de quoi se poser des questions sur est-ce que la nana elle est limitée volontairement par le booking, comment ça se fait qu'elle a tant perdu en fait de ce côté stiff qu'elle avait à NXT. J'ai du mal
Moi, je pense que c'est parce que oui, comme tu le dis, elle est limitée par le booking. C'est-à-dire que l'histoire, c'est Lana la gentille qui est martyrisée par chez Nia Jax la méchante. Donc comme c'est Nia Jax et Lana les deux personnages principaux, bah Asuka, parce que Asuka c'est pareil, hein, elle fait plus grand chose. Hein. Asuka et Shayna Baszler, bah, elles sont ultra en retrait parce qu'en fait elles servent de faire valoir à Lana et Nia Jax.
C'est pas faux.
C'est pas forcément le choix que j'aurais fait, mais c'est le choix qui a été fait par la WWE.
Ah, tout à fait. Allez, on quitte les filles. On va avoir plusieurs. En fait, on va avoir les annonces un peu finalement de ce qui va se passer pour la suite, puisqu'on va nous raconter que Jeff Hardy et Bobby Lashley vont s'affronter, que Kofi Kingston et Shelton Benjamin vont s'affronter. D'ailleurs, on croisera le Hurt Business qui vont martyriser un pauvre mec qui est en train de travailler dans les coulisses. On nous rappelle également que Drew McIntyre défendra son titre de World Champion à TLC face à AJ Styles. On revoit dans un petit package vidéo très rapide la victoire de Dana Brooke sur Reckoning la semaine dernière. Et on nous annonce qu'on va avoir droit à un 2 contre 2, un mix match entre Slapjack et Reckoning face à Dana Brooke et Ricochet. Mes amis, bienvenue dans la low-card. Voilà, la low-card de Raw est en place. D'ailleurs, Brooke et Ricochet vont être en coulisses où ils vont un peu parler stratégie, si on peut appeler ça comme ça. Il va y avoir le bro Riddle qui va arriver, qui veut leur offrir des donuts. Après, ils vont être en interview, mais Badana elle va nous expliquer que voilà quoi, qu'elle aura pas de problème ce soir à recoller une nouvelle gifle à Ali et à Eric Conning. Et qu'elle n'est pas contente après Reckoning de lui avoir donné le bel œil au beurre noir qu'elle a montré d'ailleurs pas mal sur les réseaux sociaux d'après ce que j'ai compris, où effectivement elle s'est pris un bon bourre-pif hein, à l'ancienne mon papy hein.
Voilà, c'est ça, c'est l'apprentissage du catch hein, ça laisse des marques.
Voilà, donc on se retrouve avec un match, un tag team, un mix tag team match, mix tag team match qui va durer, tenez-vous bien, accrochez vos ceintures, qui va durer 1 minute 45. Ça, c'est du catch. Alors, bien évidemment, comme la semaine dernière, hein, Brooke, elle va coller une tartouze à Reckoning, va lui faire tomber son match, son masque, pardon. Voilà. Ali va quand même un peu, enfin, va pas intervenir, mais va pas mal crier après Ricochet, en fait, en lui expliquant que tu devrais être avec nous, tu nous appartiens, bref. Ça se passe mal de toute manière pour ces poteaux de Retribution parce que Slapjack il va rater un cannonball et ça va choper le tag pour Reckoning. Dana Brooke va porter un driver pour la victoire des Face, donc c'est Dana Brooke qui va porter le pin victorieux après 1 minute 45 dans un match fou. Et finalement, que va faire Ali? Et ben Ali, en bon directeur des ressources humaines qu'il est depuis la semaine dernière, il va monter sur le ring pour venir engueuler encore une fois Reckoning, et il va carrément lui dire qu'il lui fait honte. Voilà, on en est là hein, à Retribution hein, on en est juste là, donc évidemment je pense que ça n'a pas dû faire rêver grand monde dans la sphère catchesque. Et mon papy, est-ce que ça t'a fait rêver toi?
Non mais c'est une catastrophe Retribution, et le pire c'est que chaque semaine qui passe ils creusent encore un peu plus la tombe du concept en fait,
et en plus leurs powerhouse ont disparu.
Voilà, il n'y a plus de powerhouse, il ne reste plus que les deux plus crevettes qui entourent Ali. Dana Brooke gagne sur un vrai finisher, ça on peut quand même le noter.
Ouais. Ça change, ouais.
Ça change, mais par contre, le reste, donc on est déjà sur. C'est un clan qui n'a absolument rien montré, parce que de toute façon, qui ne sert à rien. Et en plus, ils ont déjà des dissensions. Je ne sais pas où ils veulent aller, hein, mais je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire de pire. Chaque semaine qui passe, c'est de pire en pire pour ce clan-là. Ils ont peut-être une idée géniale derrière, mais pour l'instant, je pense vraiment qu'ils sont en train de ramer parce qu'on leur a dit voilà, t'as 1 minute 30 et démerde-toi.
J'imagine bien la scène dans la gorilla position, quoi.
Ouais, c'est ça, non, mais voilà. Ouais. Faites le moins de catch possible et amusez-vous. Voilà, enfin, amusez-vous. Je ne sais pas s'ils s'amusent, franchement.
Ouais, je ne suis pas sûr qu'ils s'amusent. Hein. Je sais pas si c'est un plaisir pour des catcheurs comme ça d'avoir 1 minute 45 de temps d'antenne pour montrer rien, en fait. Donc, ça doit être assez compliqué quand même pour les workers hein, dans ces moments-là. Hein.
Non, mais tu vois, voilà ça. Et puis, bah, il faut qu'ils restent motivés. La courageuse d'Anna Brooke, elle fait tout ce qu'elle peut pour la remotiver. Non, elle n'a vraiment pas beau. Elle est déjà dans la locker depuis un bout de temps, donc elle est habituée. Et elle sait ce que c'est d'avoir pas de temps d'antenne du tout. Mais voilà, même si elle fait de son mieux, même si Ali, c'est pareil, je pense qu'il fait de son mieux aussi pour sortir des promos. Mais enfin, s'il n'y a pas un minimum de croyance dans ce truc-là, ils vont jamais y arriver. Mais bon, on verra.
On se demande bien qui y croit encore du côté des officiels de la WWE à Retribution. Hein. Tout comme d'ailleurs, j'ai envie de dire presque Ricochet, hein, parce que Ricochet, là, il est au fond du fond du fond du fond. Quoi.
Mmh. Bon, après voilà, il suffit parfois de la bonne opportunité derrière qui se trouve. Puis ça, tu vois, on va reparler plus tard de Cedric Alexander, par contre, toi, qui ouais. Vit une deuxième vie quoi, depuis qu'il a rejoint Hurt Business. Donc on peut toujours espérer ça pour Ricochet aussi. Hein.
Je lui souhaite ardemment. Allez, on retourne en coulisses où on va avoir un petit segment entre Kisly et Sheamus. Kisly en mode un peu méchant, quoi. Et qui explique à Sheamus que voilà, qu'en fait, dans le locker room, personne n'est dupe à propos de lui. Et que tout le monde sait qu'il va finir par se retourner contre son vieux pote Drew McIntyre à un moment ou à un autre. Donc une tête un peu dépitée de la part du Sheamus. Et un Kisly qui paraît un petit chouïa agressif, j'ai eu l'impression.
C'est un connard, hein. Un gros, ouais. C'est un connard, moi, je trouve. Hein.
Alors, est-ce qu'on est en train on est en train de nous préparer, mine de rien, un heel turn de la part de Kisly, à ton avis?
Je pense que ça serait la bonne piste. Ça serait de dire que tout le monde se focalise en disant attention, c'est chez Monsieur Tretz, c'est chez Monsieur Tretz, c'est chez Monsieur Tretz, puis qu'à la fin, ce soit Kisly, tu vois. Ça, ce genre de truc qui serait pas mal. Mais en tout cas, effectivement, je trouve que Kisly a un comportement assez salopard depuis 2 semaines. Et donc, ça me ferait bien plaisir qu'il passe et qu'il se fasse péter la gueule.
Voilà. En toute simplicité.
Pas par moi, hein, parce qu'il est un peu grand, mais Sheamus, ouais. On représentera.
Et tu sais, moi, ce que ça m'a inspiré, en fait, ce passage, c'est que Kisly, qui est quand même un master, un bon Golgoth des familles, et quand tu vois que Sheamus se met face à face avec lui, et ça te rappelle à quel point Sheamus aussi, c'est une putain d'armoire à glace, quoi.
Une bête, hein.
C'est une bête, hein, Sheamus. Hein. Il est plus grand qu'un Kisly, quoi. Et il est plus large d'épaule. Enfin, il est vraiment impressionnant. Hein. Je vais faire encore une référence rugbystique, mais j'ai comparé Bray Wyatt à un pilier droit. Mais moi, je pense que l'équipe d'Irlande a perdu un grand numéro 8 avec Sheamus, qui, je pense, aurait été un troisième ligne centre d'exception, quoi, s'il avait préféré le rugby au catch. Mais bon, ceci est une autre histoire. Allez, on continue. On a droit à une nouvelle édition du Dirt Sheet avec Le Miz et John Morrison, qui ont comme invité AJ Styles et son associé Omos. Alors, ça va être un assez long Dirt Sheet. Hein. On nous apprend, durant ce Dirt Sheet, qu'il va y avoir un handicap match entre McIntyre et Sheamus face au Miz Morrison et AJ Styles. Le Miz fait pas mal de blagues concernant Omos, qu'il a pas de chaise pour lui parce qu'il n'a pas trouvé de chaise assez grande pour installer le géant de 2m85 sur le ring avec eux. Le Miz va demander à Styles aussi de quelle manière en fait il compte prendre le titre à McIntyre. AJ Styles, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Il va nous raconter qu'il va mettre une chaise autour du champion écossais et qu'il va taper dessus jusqu'à ce que le corps de Drew McIntyre craque. Donc là, le AJ Styles, il annonce la couleur. Derrière, ça va blaguer, ça va se moquer à mort de McIntyre et Sheamus. Ils vont imiter l'accent de l'écossais et de l'irlandais.
C'était très mauvais, ça d'ailleurs.
Ouais, ça va faire sortir Sheamus de la gorilla position, qui va être d'ailleurs suivi pas très loin par McIntyre. Et McIntyre, le bel homme, il va dire à Miz qu'il a plus de couilles depuis que Maryse les a coupées et les a gardées dans son sac à main. J'ai trouvé ça assez drôle. Et finalement, les faces de l'Europe, il faut le rappeler, vont vider le ring. Et McIntyre va balancer la mallette du Money in the Bank, puisqu'au cas où vous l'aurez oublié, le Miz est le détenteur de la mallette MITB, et va la balancer jusque sous le titan tronc, parce que le Miz, voilà, dans la panique générale, avait oublié la mallette sur le ring. Pas de chance. Alors, mon papy, ce dirt sheet là.
Non, mais je retiens que le lancer de mallette, moi. Le reste, c'était...
le lancer de mallette.
Ah, et bon lancer, qu'il a même pété un petit écran avec des LED, là, quand il a atterri la mallette. Mais sinon, le reste, c'était... je trouve ça un peu creux. En plus, encore un match avec handicap avec Miz et Morrison. Ça va faire le 50e qu'ils font depuis le début d'année. Donc, c'est un peu lourdingue. Puis, là-bas, les imitations n'étaient pas très bien. Voilà, c'était, on avait vite envie que Sheamus et McIntyre débarquent pour que ça castagne un peu quand même, parce que là c'était bien lourd, hein, que j'ai trouvé comme segment, et voilà, finalement que ça se castagne.
Ouais, je suis d'accord avec ton auguste personne, c'était très très oubliable, très franchement. Moi j'étais limite pressé que ça passe à autre chose. Moi j'ai surtout aimé, voilà, la tirade de Drew McIntyre quand il est arrivé à la fin, quoi, et l'histoire des couilles dans le sac à main de Maryse. Ça m'a fait assez rire, mais c'est finalement le seul moment dans ce segment qui m'a arraché un sourire, quoi. Sinon, c'était vraiment que c'était assez faible. Mmh. Allez, on retourne au catch, hein. Donc, comme annoncé précédemment, on va avoir droit à un single match entre Kofi Kingston des New Day et Shelton Benjamin des Hurt Business. Alors, un match qui, moi, je m'attendais à un truc assez long, etc. Et ben, ça n'a pas été le cas, puisque ça a été un match qui aura duré 3 minutes 25. Malgré les présences ringside de Xavier Woods, de MVP et de Cédric Alexander. Kingston, il va l'emporter après avoir balancé d'abord Shelton Benjamin hors du ring, qui va remonter juste à temps avant le compte de 10. Mais le temps qu'il remonte, eh ben, le Kingston, il n'a pas été champion du monde pour rien. Il sait utiliser les moments forts. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va coller un Trouble in Paradise dans la tronche de Shelton Benjamin. 1, 2, 3, victoire de Kofi. Kofi, il repart sur la rampe avec Xavier Woods. Et là, Cédric Alexander va choper le mic et va piquer une crise de nerfs en disant à Kofi Kingston, « Ok, t'as battu Shelton, mais moi, je suis là et moi, je suis en tenue et moi, je suis prêt à t'affronter dès maintenant. J'ai battu Xavier Woods la semaine dernière et je vais faire la même chose avec toi. » Et bim, bam, boum, même pas le temps de s'y remettre, la pause publicité, et on retrouve dans le ring Cédric Alexander et Kofi Kingston pour un match à peine plus long, puisque ça va être un match qui va durer 4 minutes 18. Cédric Alexander, à la différence de Shelton Benjamin, va se relever d'un Trouble in Paradise, un petit peu foiré d'ailleurs, il faudrait le dire, et il va réussir à placer son finisher à lui, son lumberjack, et il va gagner. Donc Cédric Alexander remporte 2 victoires consécutives sur le New Day, et il semble prendre une assurance que peut-être on ne lui connaissait pas, et commence à devenir un des hommes forts du Hurt Business, hein, mon papy, là.
Yes, alors, petite précision, je crois qu'il se relève d'un SOS, mais pas d'un
Trouble in Paradise. SOS. Ah, je croyais que c'était un SOS, d'accord.
Mais qui était bien botché, effectivement. Alors, en fait, le truc, c'est que Kofi a vendu une blessure tout au long du match.
Il a vendu
une blessure qui s'était faite contre Shelton Benjamin à la réception d'un saut. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui l'a un peu gêné, parce que du coup, comme il fait du coup son Trouble in Paradise en boitant, bah, du coup, il le foire à moitié. Mais derrière, effectivement, Cédric Alexander qui prend de l'assurance, qui prend de la victoire, 2 victoires de suite. Il commence à gueuler un peu au micro. La semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, il s'était barré à l'issue du match sans attendre ses copains. Là, on sent vraiment le melon qui est en train de gonfler, de chez gonfler de Cédric Alexander, mais quelque part, bah, c'est bien pour lui, ça lui fait du parce qu'il est pas mal droit dans le ring, il était juste inintéressant pour l'instant, mais voilà, au moins il apprend à développer un peu de charisme, un peu de personnalité, donc je pense que c'est bien pour lui de travailler ces aspects-là, surtout avec coaché par des vétérans comme MVP, Shelton Benjamin et Lashley quand il est là. C'est bien pour lui, je pense que c'est une bonne expérience pour lui, la participation au Hurt Business.
Ah ben moi je crois que c'est du tout bénéf, hein, pour Cédric Alexander, hein. Il est remonté dans la carte comme jamais. On pensait qu'il allait partir totalement aux oubliettes, voire qu'il allait faire partie de la charrette du mois de mars-avril. Ça n'a pas été le cas, il a tenu le choc, il a été un peu en single, et puis finalement il a été intégré au Hurt Business, et puis au final ça se passe plutôt bien pour lui là. C'est en train de devenir un solide mid-carder, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui en tout cas.
Là, c'est une surprise parce qu'en plus, on voyait Ricochet plutôt prendre le dessus. On se disait, bah, tiens, celui qui a la rivalité, peut-être qu'il va affronter leur business et du coup prendre le dessus. Et au final, c'est vraiment Cédric Alexander qui a bénéficié de la rivalité par Ricochet. Quoi. Alors, lui qui est totalement parti au fond des abîmes, et tandis que Cédric Alexander, lui, ça va plutôt bien.
Et tant mieux! Tant mieux! On est toujours content de voir. Un gars comme ça qui bosse et puis qui finalement bah, est récompensé parce que c'est un petit peu l'histoire de Cédric Alexander là, de ce qui est en train de lui arriver en ce moment.
Oui, ben c'est très bien. Félicitations.
Bravo Cédric. Voilà, il y aura eu après on aura un petit package vidéo concernant Jeff Hardy sur sa victoire face à Elias de la semaine dernière. On nous rappelle qu'il va affronter Bobby Lashley ce soir. Après on aura la nouvelle diffusion de la vidéo hommage à Pat Patterson. On aura aussi un package vidéo consacré au show Tribute to the Troops qui a eu lieu dimanche avec tout le tralala américain que vous connaissez, consacré à un show de catch spécialement pour les troupes américaines. Et derrière, on va passer direct à du catch, puisque ça y est, le handicap match est là. AJ Styles, Le Miz, John Morrison versus Drew McIntyre et Sheamus. Dans un match qui, là, va avoir quelques critères un peu plus intéressants, puisqu'on va avoir droit à un match de 15 minutes 40. Sheamus va porter un gros backbreaker, entre autres, à Styles. Il va vouloir enchaîner avec un broad kick, mais, pas de chance. Le Styles va s'écarter au bon moment pour que le Sheamus frappe finalement accidentellement hein, son coéquipier McIntyre. Styles va en profiter pour porter son phénoménal forearm sur Sheamus. Victoire des heels. Petite tension ou grosse tension entre les faces, on en reparlera, qui va se suivre après derrière backstage. Mais je vais d'abord attendre l'avis de notre papy sur le match en lui-même. Qu'est-ce que tu as pensé de ce handicap match, mon papy?
J'ai plus d'autres heures, je n'étais pas emballé du tout par ce match-là parce que j'en ai vraiment ras-le-bol de voir les handicap matchs avec Le Miz et Morrison dedans. À ma surprise, pour une fois, il ne perd pas parce que c'est AJ Styles qui fait le tomber. Et donc, on fait naître des petites tensions entre Sheamus et McIntyre. À part ça. Ouais, c'est le genre de match où j'arrive pas à m'emballer sur le contenu parce que je sens que c'est vraiment tout fait pour raconter l'histoire autour, quoi. C'est-à-dire que, Sheamus, est-ce qu'il va se battre avec McIntyre? AJ Styles, est-ce qu'il est assez malin pour pouvoir contourner le truc? Le Miz et Morrison, est-ce que si, ils vont cacher la mallette? Et du coup, voilà, t'as tellement de trucs autour que, du coup, finalement, le match, je me souviens juste de la fin avec le brokick dans la tronche, mais sinon le reste j'ai pas du tout d'image du match en tête. Alors pourtant je l'ai regardé quelques heures, tu vois, mais c'est voilà, ça m'a plus marqué ce qui se passait autour que ce qui se passait dedans.
Ouais, c'est bizarre. On aurait pu s'attendre à un truc un peu plus sympa, hein. Mais effectivement, ces trucs de handicap match là, je sais pas où c'est qu'ils veulent que ça mène, mais c'est vrai que c'est pas super intéressant, quoi. Alors, on a eu du catch quand même, quoi. C'est bien, le bel homme et Sheamus, il y a une belle alchimie entre les deux. Hein. On sent que c'est des vrais potes et que bosser ensemble, ça leur fait plaisir. Donc, voilà, il y a le fait marquant du match, c'est effectivement ce broad kick donné à McIntyre involontairement de la part de Sheamus. Et c'est là-dessus qu'ils vont broder après derrière, puisque derrière, on va avoir un petit segment backstage où il y a Sheamus qui est en train d'attendre Drew McIntyre. Il explique pendant une interview que il a pas frappé volontairement McIntyre, hein. Et notre Écossais, il a l'air un petit peu d'en douter, quoi. Et il y a un petit coachage entre les deux pendant quelques secondes. Il va y avoir une espèce de coupure. Je sais pas si tu as eu la même dans la version que tu as vue, mon papy. C'était un peu.
Oui.
Et on va retrouver les deux British à se mettre sur la gueule joyeusement, grosse baston de bar quasiment, quoi. Et donc vraiment, sur le coup, je me dis « oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il y a un officiel qui va débarquer et qui va essayer de les séparer. Rien de tel qu'un mec pour se mettre entre les deux pour qu'ils s'unissent. Et finalement, ils vont arracher les fringues de l'officiel et ils vont lui coller une powerbomb sur une table qui traînait par là. Et finalement, derrière, qu'est-ce qu'ils font les deux gars ? Encore, j'ai un peu envie de dire ambiance rugby. Voilà, on se met sur la tronche, mais à la fin, on s'invite à aller boire une pinte, mon papy. C'est pas ça la vie finalement ?
Si, ben c'est ça la vie. Bon, de toute façon, en fait, on le sentait à la sortie du match où Chemeuse disait, bon, je l'ai pas fait exprès, mais de toute façon, on va faire qu'on se tape sur la gueule pour régler ça. Effectivement, ils se sont tapés sur la gueule avec cette coupure pub qui tombe juste après qu'ils se rapprochent l'un contre l'autre et puis qu'ils redémarrent sur la baston. Donc, je pense vraiment que c'est une pub. Pour donner un peu de. Pour qu'après, ça donne l'impression que ça s'est continué pendant la pub. Et le pas officiel qui passe par là, qui s'est massacré, a noté quand même que donc il frappe un officiel. Cet officiel, si je ne dis pas de bêtises, c'est le même qui avait été poussé par Nia Jax, qui avait valu une suspension pour Nia Jax pour l'avoir poussé. Et donc là, il le passe à travers une table. Mais tout est normal.
Ouais. Mais tout est normal. L'officiel, en l'occurrence, là, je sais pas quelle idée lui est venue. En plus, le gars, c'était une crevette. Pas de Buck, il s'appelle. Je cherchais son nom.
Pat voilà, Buck. C'est pas de quelque chose. Pas de Buck, ok.
Pas de Buck, ouais. Et je pensais que. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou, lui. Il est fou, quoi. Entre Sheamus et Drew McIntyre, je veux dire, quoi. Hein.
Donc, ouais, c'est pour dire que c'est l'amitié virile. C'est, en gros, je pense que c'était souligner le message, mais.
Mais oui, c'était bon. Ça.
Ils auraient pu mettre un vrai catcheur pour les séparer plutôt qu'un officiel. À moins que la semaine prochaine, ils mettent une suspension qui joue là-dessus peut-être. Mais moi, je sens plutôt le truc qui va être oublié la semaine prochaine et terminé. Quoi. Mais bon, je ne demande qu'être trompé.
On verra ça la semaine prochaine. Allez, on tourne en coulisses où on va trouver Jeff Hardy qui est en train de se préparer pour son match face à Bobby Lashley. Il va croiser à nouveau le bro Riddle qui est toujours en balade avec ses donuts. Quoi. Et du coup, Riddle, il explique à Jeff Hardy qu'il s'est fait attaquer la semaine dernière par Bobby Lashley. Et voilà, et qu'il aimerait bien faire équipe avec Hardy et reformer les Hardy Bros, carrément, quoi. Il a peur de rien, l'ami Riddle. Et il lui dit quoi? Il lui dit, ah oui, que leur finisher pourrait s'appeler le Boetry in Motion. Mais Hardy, il semble pas vraiment super motivé, quoi. Hein. Ça a pas l'air de le secouer particulièrement, cette proposition. Du coup, il passe la gorilla position et il va directement sur le ring. Il va être rejoint par le Bobby Lashley en super forme, comme d'habitude. Et là, on va avoir droit à un deuxième match quand même sur des critères un petit peu plus longs, puisqu'on va avoir droit à un match de 14 minutes. Et avec un Jeff Hardy bien, bien offensif, hein, malgré le différentiel physique entre les deux. Mais on va avoir un match pas mal. Hardy va même avoir sa chance puisqu'il va réussir à passer son Whisper in the Wind pour un compte de deux. Lashley va poser un flatliner aussi bien bien sanglant pour le compte de deux également. Finalement, Hardy va continuer à réussir à passer ses moves. Hein. Moi j'étais étonné qu'il place autant ses moves sur Lashley puisqu'il va réussir à placer Twist of Fate. Il va monter sur la troisième corde, il va partir pour un dive. Mais bien évidemment, Lashley va l'éviter, va lui coller un spear. Et derrière, eh ben, c'est parti pour la foule Nelson, c'est parti pour le Heartlock. Et victoire par soumission de Lashley. Lashley va maintenir la prise hein, après la cloche. Mais c'est Riddle qui finalement va venir et va faire le sauvetage de Jeff Hardy. Intervention bien à propos de Riddle quand même, parce que le pauvre Jeff Hardy, j'avais un peu peur dans quel état il allait finir. Je me demande si Jeff Hardy n'a pas des problèmes de sciatique d'ailleurs, parce qu'il n'arrête pas de se poser les mains aux endroits fatidiques de la sciatique. mais voilà, un match quand même assez solide entre deux anciens champions US. Alors je voulais le dire dès le handicap match, mais j'ai un peu oublié. Mais on remarquera ce soir que dans ce Raw, on avait mine de rien 5 anciens champions du monde de la TNA, en l'occurrence AJ Styles, Drew McIntyre, Bobby Lashley et Jeff Hardy. Donc, c'était un peu la fête à Impact Wrestling ce soir.
Ah, c'est qui le cinquième? Alors, tu m'as dit 5, t'en as cité 4.
J'en ai dit 5, j'en ai donné 4. Non, Bobby Lashley, Jeff Hardy, Styles. Ah ouais, non, ça fait 4, parce que tu vois, c'est moi et mes problèmes de mathématiques. Et non, John Morrison.
Ouais, parce que j'ai pas eu tout suivi l'époque où il était, ouais, d'accord, ok.
Et John Morrison, oui, mais j'avais carrément, mais je savais bien que c'était 5, c'était bien. John Morrison a été champion de la TNA.
Et pas MVP.
Ah, MVP, alors là, c'est une bonne question. Fact-checking, peuple de catch-up.
Allez-y, les gars, bossez.
Bosser ce soir, hein, parce que je ne sais pas si MVP a été.
Attends, j'en note aussi, j'ai un doute. Vérifiez Artruth aussi, tant que vous y êtes.
Ah oui, ouais, bonne question, ouais. Artruth aussi, ouais, ça serait pas impossible, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce match là, entre
voilà, donc, pendant qu'on fait bosser nos auditeurs, je pars faire mon analyse du match. Qu'est-ce que j'allais dire plutôt belle opposition de Jeff Hardy, qui s'est bien défendu, même si effectivement, je me demande s'il n'est pas simplement usé hein, à force de d'être cassé de partout. Donc, c'est qu'il est très bon, il vend très bien les coups, mais je pense surtout qu'il vend bien les trucs parce qu'il est déjà de base bien allumé en fait. Donc, très rapidement, il se fait blesser. Pour justifier la suite du match. Ça me rappelle le Taker aussi sur la fin, c'est un peu ça. Dès le début, il prenait des gros coups, comme ça, il justifiait le fait qu'il boite tout du long. Je suis étonné de l'importance qu'est en train de prendre Matt Riddle, qui monte. Là, il a été quasiment une espèce de fil rouge pendant toute l'émission. Même s'il botchait un peu ses promos backstage, on voit qu'il est vraiment encore en train d'apprendre son métier, hein, Matt Riddle. Hein. Ça reste un jeune. Il est peut-être monté un poil vide, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, il continue d'apprendre. Et j'ai l'impression qu'il continue de miser dessus parce que, clairement, vu que Jeff n'est pas battu entre guillemets clean, enfin, ouais, même plutôt clean d'ailleurs, l'étape d'après, c'est soit Matt Riddle qui va chercher la ceinture, soit Matt Riddle qui sont en équipe avec Jeff Hardy. Je pense que c'est, quoi qu'il arrive, deux bonnes options pour Matt Riddle, enfin, Riddle tout court d'ailleurs. Pour son développement d'être avec Lashley ou d'être avec Jeff Hardy, c'est quand même des trucs plutôt bien pour un gars de ce niveau. Donc par contre, ce qui me fait peur, c'est si en tag team, est-ce que ça va être contre Lashley MVP, donc MVP sur le ring, ça par contre ça ferait pas rêver. Donc j'espère vraiment que ça sera un coup de Jeff, le mentor de Riddle, quitte après ce qu'il fout en tag team, mais carrément dans la division tag team, donc avec plutôt Benjamin et Alexander.
Ouais, c'est possible. Ouais, c'est toujours le problème aussi avec la Tag Team Division, hein, comme d'habitude, hein, Garo comme à SmackDown. Donc pour moi, il est temps quand même qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Et bon, et le Hurt Business est tellement dans la vibe depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'il serait peut-être temps qu'il se passe quelque chose. Moi, je serais pas contre de toute façon une prise de titre de Shelton Benjamin et Cédric Alexander.
Ouais, ça peut être pas mal. Mais là, effectivement, au moins, ça bouge côté Raw dans la division tag team. Donc, on va pas se plaindre.
C'est vrai, c'est vrai. Ça se bouge et c'est déjà pas mal. Allez, et ben voilà, mine de rien, un peuple de catch-up, on arrive à notre main event du soir qui oppose donc Randy Orton à Bray Wyatt. Non pas le film, mais bien Bray Wyatt qui débarque en pantalon noir et en petit pull pour affronter la vipère. On va avoir un match de 12 minutes. Où Wyatt va tenter à quelques reprises de porter son sister à Abigail, mais Orton va se sortir de la prise une fois, deux fois, et finalement, à la fois suivante, il va lui mettre tout simplement les doigts dans les yeux, un bon vieux poke à l'ancienne. Derrière, il va enchaîner son DDT, il va vouloir se préparer pour un RKO, à ce moment-là, les lumières vont commencer à s'éteindre progressivement. Orton va porter son RKO, va pour porter le pin. Mais là, les lumières s'éteignent complètement. Les lumières rouges s'allument. Et là, alors que le Bray Wyatt était au sol, et bien par un instant de magie, il est remplacé par le Fiend qui va coller son mandible claw dans la mandibule de Randy Orton. Du coup, on a un no contest. Et le show se terminera d'ailleurs comme ça, avec l'image du Fiend qui porte son mandible claw sur Randy Orton. Rendez-vous est pris, j'ai envie de dire, entre les deux, peut-être la semaine prochaine, en tout cas, quoi qu'il arrive, à TLC. Alors, papy, ce main event.
Je pense que le fait que tu l'aies résumé aussi vite, alors qu'il doit être 2 minutes, oui. Je pense que ça symbolise un peu le contenu de ce main event. C'est le souci. Alors, déjà, Bray Wyatt, en mode Bray Wyatt, volontairement, il est moins agressif que le Fiend. Et donc, du coup, ça fait du catch pas vivace, parce qu'en plus, Bray Wyatt, c'est vraiment pas le meilleur catcheur du monde. Et alors, quand tu mets en face Orton, qui avec son catch méthodique, pour pas dire lent, ça fait une affiche qui était à deux à l'heure, où il ne se passait pas grand-chose. C'était juste pour faire la petite pirouette à la fin du Fiend qui intervient. C'était pas terrible. Franchement, je suis pas sûr que ça va valer un main event, ce genre de truc. Je suis bien plus impatient de voir la confrontation avec TLC parce que en mode feint, il va y avoir beaucoup plus de violence, beaucoup plus d'impact et je pense que ça sera bien plus sympa à suivre. Là, du coup, c'était un mode Canada Dry et donc, du coup, bah, c'était pas terrible pour un main event, je trouve.
Bah non, c'était pas terrible. Hein. C'était assez dommageable quoi, de finir avec un main event comme ça, quoi, qui était quand même très faible. Bon, Bray Wyatt dans le ring, moi je le préfère quand il est en mode Fiend, hein, parce que quand il est un peu en mode no-selling, etc. Là quand il est dans le personnage de Bray Wyatt sur le ring, je trouve que ça nous montre un peu toutes ses faiblesses dans le in-ring. Hein.
Bye. Mais il n'est pas censé catcher Bray Wyatt, hein, normalement. Ils le font de temps en temps pour allonger la sauce, mais c'est le Bray Wyatt des Bayou était intéressant parce qu'il avait cette agressivité, mais le Bray Wyatt mode ravi de la crèche, bah, il n'est pas du tout intéressant en fait, parce qu'il passe son temps à rire et puis à quasiment rien faire en fait.
Ouais, il fait pas grand chose. Ça, c'est sûr qu'il fait pas grand chose. Ouais. Donc voilà, ainsi s'achève ce Monday Night Raw. Du 7 décembre 2020, eh bien, mon papy, tu vas toper, tu vas flopper et tu vas noter.
Oui, tonton. Bah, c'est assez compliqué, tiens, je trouve, parce que j'ai pas d'énorme flop et j'ai pas d'énorme top dans ce show. C'était plutôt un show très moyen. Du coup, tiens, je donnais ma note tout de suite. C'était très moyen, où je donnais un 2,5. Voilà, c'était ni plus ni moins. J'ai pas de raison vraiment d'enflammer, pas de raison non plus d'hurler en frappant la tête contre le mur. Ça construit comme de quelques trucs hein, dans la division tag team, tout ça, et pour le titre US, mais ça ronronne un peu. Quoi. Je sais pas ce qui manquait, peut-être Alexa Bliss, qui sait, mais si je trouve que ça ronronnait pas mal pour tout du long. Et du coup, mon top et flop, mon flop, bah, je le donnais. Ça aurait pu être le Miz et Morrison qui m'ont saoulé avec leur segment, mais je le donnais au main event parce que bah voilà, le main event c'est quand même un marqueur important du show. Et quand un main event qui est pas top, bah ça donne tout de suite un goût pas top au show quoi. Donc
oui.
Mon flop au main event, mon top, je vais le donner. On va donner mon top. Allez, je vais le donner à Cédric Alexander. C'est pas un top énorme, mais c'est juste pour dire que bah voilà, c'est un garçon qui a pas mal fait de trucs intéressants depuis des années, et puis il semble enfin se trouver un petit truc, une petite piste pour montrer son talent. Donc bah c'est un top d'encouragement. Et donc ma note, comme je dis, 2,5. Donc voilà pour moi.
Bah écoute, on va être complètement à l'équilibre parce que c'est pas un rôle qui m'a enthousiasmé, c'est moins qu'on puisse dire. Je vais donner mon top à Cédric Alexander. Voilà, pour cette belle remontée, ces deux victoires consécutives sur les deux derniers rows. Voilà, je trouve le mec bien, je trouve le mec épanoui. Je trouve que c'est une bonne nouvelle pour lui. Comme je l'avais déjà expliqué, j'avais eu la chance de le voir en house show à Paris. Et il m'avait vraiment beaucoup plu, ce Cédric Alexander. Et donc, je suis content de le voir à ce niveau-là et de voir qu'on compte sur lui et qu'il n'est pas parti aux oubliettes. Et donc, ça, c'est, je trouve, une très bonne nouvelle pour Cédric Alexander. Donc, je vais lui donner mon top. Je vais donner mon flop. Bah, je vais donner mon flop au main event parce que moi, je le répète sans cesse sur l'antenne de catch-up, mais je déteste quand je termine un show de catch par un main event mauvais, moyennasse. Voilà, ça me gâche mon plaisir. Le main event pour moi, ça doit être un moment fort dans un show de catch, et c'est ce qui doit permettre de terminer un show en se disant ouais, bon, c'était pas forcément super terrible, mais ils ont terminé avec des feux d'artifice. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les feux d'artifice, on les a pas vus. Bray Wyatt dans le ring, bah c'est pas ça. Il faudrait qu'il perde quelques kilos, l'ami aussi, hein, bah, mais bon, ça se cache bien quand il est en mode Fiend, mais quand il est en mode Bray Wyatt, ça se voit quand même beaucoup quoi. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait un petit effort qui soit fait à ce niveau-là. Mais voilà, c'était vraiment un main event vraiment fadasse, quoi. Donc, comme toi, je vais donner un 2,5. Pareil, je vais donner juste...
On a tout mis pareil, hein.
Ah ouais, là, ouais, vraiment, là, je suis totalement raccord avec toi parce que je vois pas grand-chose d'autre, en fait, dans ce show. C'est quand même ça, hein.
Ouais, et pourtant, il y a des pistes sympas, tu vois, mais voilà, là, ça reste à l'état de piste, en fait. Donc,
Alors, qu'est-ce que tu vois pour la semaine prochaine pour le Go Home Show là, qui va nous préparer à TLC là.
Bah, je pense que Riddle
quelles
va
sont,
prendre.
Quelles sont les prédictions du papy?
Voilà, moi je pense que Riddle va prendre sa chance contre Lashley à TLC. Ça nous fera un match. Pour les tag teams, bah, c'est évident que ça sera New Day contre Hurt Business, ça fait deux. Asuka va pas défendre sa ceinture, malheureusement, vu qu'elle sera dans le titre féminin. Puis après, on rajoute Wyatt Orton et puis le match pour le titre suprême. Et je pense que tu as total. Je pense pas qu'on aura tout de suite le Sheamus qui se lit. Ça me semble pas trop loin. Ou alors en pré-show, mais bon, ça serait gâché du talent de les foutre ces deux-là en mon pré-show. Mais voilà, je le sens comme ça. En tout cas, si ça part là-dessus, bah, ça sera un programme pour Telsi qui sera plutôt plaisant quand même.
Ouais, on verra. On aura l'occasion d'analyser cette semaine prochaine de Go Home Show qui va nous emmener vers TLC, qui, je le rappelle, est le dernier pay-per-view de l'année 2020. Enfin, on y arrive un peu à cette fin d'année 2020. Hein. Bon, il nous reste encore 22 jours. Hein. Il faut toujours s'accrocher. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais en tout cas, au niveau catch, au niveau WWE, on y est. Nous, on y est aussi, puisque nous, on est partout, on est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Vous nous trouvez également sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcasts, PodCloud, Spotify, Deezer et Google Podcasts. Bien évidemment sur YouTube, actionnez la cloche, mettez des pouces bleus, laissez-nous des commentaires, faites du fact-checking à mort pour confirmer ou pour infirmer ce qu'on vous raconte pendant nos reviews. Vous pouvez évidemment rejoindre la communauté Catch-Up sur le Discord et bien évidemment, vous avez le site officiel pour tout renseignement, catchup.lepodcast.fr. Voilà, on est arrivé au bout de ce RAW du 7 décembre 2020. Peuple de Catch-Up, on espère que vous vous êtes autant amusé que nous à enregistrer. Mon papy, je te remercie pour ta présence inusable.
Ben, merci pour toi aussi d'être inusable dans la présentation. Et puis voilà, merci bien pour ton accueil.
Voilà, sur ces belles paroles, on vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy.
Salut tonton et salut à tous nos auditeurs et nos fact-checkers.
C'est tout à fait ça. Allez, salut peuple de catcheurs. Si on m'avait dit qu'on aurait eu 5 champions du monde de la TNA dans un weekly de la WWE, j'y aurais pas cru.
Je te dis, moi, je pense qu'il y en a au moins 6. Comptez.
Fact-checker.